Je suis Colette Downey, je suis très heureux d'être ici. Je suis la directrice générale ici de la direction de la politique, ici pour faire la politique pour l'industrie du Canada. Et puis, il y a Mademoiselle Monson ici, qui est mon homologue à Patam Canada. Vous savez que, voyez que nous avons une série d'interprétations. Alors, n'hésitez pas et participez à la séance dans une autre langue officielle pour veiller à ce que l'interprétation soit la meilleure qu'il était possible, en parler lentement et clairement. Et comme vous l'avez noté, vous avez vu au titre invitation que nous allons enregistrer cette séance et que nous allons la afficher un balado sur le site web de cette séance, ainsi que les transcriptions des autres séances. Donc ce sera transcrit sous forme écrite et ce sera accessible sur le site web. Étant donné que c'est enregistré, veuillez décliner vos titres et qualités pour quand vous parlez, c'est plus facile. Alors parce que après, on va se poser la question qui a dit quoi. Alors c'est tout, alors ça veut dire environ 10 minutes. On va commencer ici par la table ronde. Je veux dire quelques mots. Alors merci beaucoup. Je suis Tony Clément, au fin de l'enregistrement. Merci d'avoir pris le temps de venir avec nous aujourd'hui, que vous le savez, ou que vous le saurez peut-être. Hier, James Moore et moi avons débuté les consultations sur la loi sur la protection des droits d'auteur, pareillement à Vancouver. Et lui et moi, nous sommes tous ensemble et séparément, nous allons engager d'autres tables rondes dans différents parties du pays. Nous avons également des forums populaires avec un élément électronique dans les grandes villes. Alors, on se rend compte que c'est une consultation très, très importante que nous effectuons. Et espérons que d'ici le 13 septembre, tout sera terminé. Certains d'entre vous avaient peut-être préparé des remarques, sur quoi je vous encourage. Vous pouvez parler de manière appointue si vous voulez. Et si vous le voulez, vous avez une autre possibilité, c'est de nous remettre un texte préparé. Bon, on se croirait dans une salle de tribunal. Alors, faites part de vos pensées. À l'avenir, jusqu'au 13 septembre, vous pouvez le faire d'ici jusqu'à cette date. Alors, ne soyez pas limité, c'est parce que vous êtes ici, n'imaginez pas que vous ne pouvez pas remettre ces textes plus tard. Alors, faites-nous part de vos réflexions. Et alors, en fait, on essaie d'utiliser autant de tribunes que possible. Nous sommes ici face à face, mais maintenant que c'est en direct, et il y a un compte Twitter qui est opérationnel, où les gens mettent des messages, des tweets, et il y a d'autres formes de réseaux inhérents au cyberespace. Alors, il s'agit d'une entreprise multimédia.
Voilà, à tous, c'est possible, si c'est votre choix, mais si vous pouvez ou voudrez parler en français, c'est possible pour moi aussi. But generally, we're here to.
Général, nous sommes ici pour vous écouter, afin que nous ayons une idée de ce qui, à votre avis, devrait être incorporé à la loi sur la protection des droits d'auteur. Alors, c'est une tentative relativement élevée pour ce qui est du changement apporté à la loi sur la protection des droits d'auteur. La dernière tentative, c'était l'année dernière, par projet de loi C-61, James et moi, dans notre mandat, lui comme ministre du patrimoine et moi de l'industrie, essayons peut-être d'ajouter notre grain de sel, si vous voulez, à ce que devrait contenir la loi sur la protection des droits d'auteur. Mettons fin de cette consultation. Vous pouvez, bien entendu, si vous avez une opinion sur C-61, alors enregistrez votre opinion. Mais ça n'existe plus, C-61. Alors, ça a disparu lors de la séance parlementaire. Si vous estimez qu'il y a d'autres façons de de formuler la nouvelle loi ici, eh bien, n'hésitez pas, ne soyez pas limité par la population de ces 61. Alors James et moi-même estimons qu'il y a certains des aspects de ce projet de loi qui sont désuets, comme par exemple l'ouvrement de la technologie. Jim Prentice et Madame Werner parlaient, utilisaient des termes tels que Twittering, il y a un an et demi, on les regardait un peu comme des gens bizarres. Hein. Telle est la nature de la technologie que c'est évolué extrêmement rapidement. Par conséquent, dans ce sens, ne soyez pas limités par la référence à une nouvelle technologie parce que cela est rapidement désuet. Je vous encourage. Une approche de base en matière de loi sur la protection des droits d'auteur. Comment établir un équilibre et comment est-ce qu'il faut, il faut tenir compte ici des droits des créateurs et des autres, des artistes. Comment protéger l'intérêt canadien des différents intervenants. Voilà ces différentes questions de grande importance lorsque nous examinons cette loi. Ministre de l'Industrie, je suis préoccupé par notre capacité d'accommodation à être compétitive, novateur, afin de cadrer, de s'insérer davantage dans l'ère numérique où nous nous trouvons. Alors, simultanément, il y a une nouvelle stratégie qui a été lancée pour faire de Canada alors l'économie numérique la première au monde. Alors, je constate ici cet élément législatif comme étant une partie de ce débat. Bien entendu que l'économie numérique ici va au-delà de la protection de la propriété intellectuelle. Alors voilà, c'était une façon de vous dire bienvenue, même si j'ai pris le temps. Nous adorons avoir vos points de vue, avoir couvert. Nous avons fait une table ronde. Je vous parle ici du déroulement de l'opération. Alors voilà, je fais signe à mon collègue. Nous allons agir dans le sens des aiguilles du montre et René aura le dernier mot. Et j'espère qu'à la fin, nous aurons quelques minutes pour lancer un débat beaucoup plus libre. Alors, chers collègues, je vous donne la parole. Alors, merci beaucoup. Alors, j'ai quelques mots. Je suis Louis Webster. Je suis partenaire avec un cabinet d'avocats de Toronto. Alors, ça fait 25 ans aussi que je m'intéresse à cette législation. Si je suis président du comité sur le copyright de la Chambre du commerce, je suis également membre fondateur ici du Conseil de la propriété intellectuelle. Je me pratique et porte ici sur ce genre de technologie depuis très très longtemps. Merci au nom de la Chambre du commerce canadienne pour nous avoir donné l'occasion de comparaître aujourd'hui. J'espère que cette séance et les autres tables rondes qui ont été prévues pour cet été seront utiles. Alors, observation personnelle, je suis surpris peut-être quand je vois qu'ici que la protection des droits d'auteur, c'est un sujet très important. Il n'y a pas tellement ici que alors notre loi ici contre les technologies désuètes, qu'il s'agit de cylindres en acier, des boîtes noires ici comme tu disais dans les années il y a 20 ou 30 ans, ça n'a pris que 100 ans ici, pour éliminer ces références à la loi. Et j'espère que ça va nous prendre 100 ans ici pour insérer des nouveaux amendements. C'est la réforme de la protection des droits d'auteur, c'est absolument nécessaire maintenant. L'Internet et ce genre de réseau, les images, les textes, alors peut-être diffuser là-dessus. Et puis, on peut énoncer des principes fondamentaux ici qui concernent ici la loi PE. Alors maintenant, on verra ici qu'il est temps, c'est possible de vraiment s'accorder avec l'ère numérique. Alors, à l'époque, ici, ça se ramenait tout simplement sur l'enregistrement ici de cassettes, quelque chose ici. Alors, maintenant, c'est un sujet qui présente différentes questions et sur lesquelles on peut vraiment différer. Il y a différentes personnes ici qui sont possibles, telles que les tweets, les blogs et d'autres formes de messages, ce qui fait ici que la législation est très restrictive. Bien sûr que les gens ont le droit d'avoir leur opinion comme avocat pratiquant. J'estime que les personnes ici et qui ont la voix la plus forte, et si vous voulez des diffusions libres de leur travail. Bon, et voilà, alors c'est ceux ici qui s'expriment le plus le plus hautement ici, quand leurs œuvres disparaissent. Alors, est-ce qu'il faut assurer, donc, un bon écoulement des informations ici sans entraver ce genre d'échange? Alors, c'est certain ici que les bibliothécaires affirment cette position. Les universités, par exemple, à mon avis, sont les supporters les plus importants des droits pays pour la commercialisation de leurs inventions. Et à l'une fois que... Alors, écoutez, c'est comme regarder le télescope par l'envers. Alors, je vous dis que les droits pays tels que les copyrights ici sont là à des fins très, très précises. Il ne faut pas perdre de vue le fait ici que la loi sur la protection des droits d'auteur ici, ça fait l'objet d'une grande coopération. Il faut y rendre tout disponible, simplement parce que il faut que véritablement qu'il faut stimuler la créativité. Ce fait par des visions de formation. Alors la protection couvre la forme et non pas la substance. Alors ce n'est pas le droit pays ici pour protéger les entreprises, les individus et les petites et moyennes entreprises en bénéficient également, les musiciens, les artistes et en fait tous ces intervenants. Le Canada a du retard dans ce domaine. La Chambre estime ici que maintenant nous sommes un embarras ici quand la réforme s'impose. Alors nous adhérons à différents traités sur la protection des droits d'auteur. Et c'est en 1986, le comité permanent sur l'industrie il y a 2 ans et la sécurité publique ont recommandé à la fois que les lois pays du Canada soient réformées d'ici peu, non seulement pour limiter le nombre d'éléments qui arrivent au Canada, mais faire en sorte ici que la loi soit conforme ici aux normes actuelles. Alors, j'ai comparé devant les deux comités, je peux vous dire ici que l'appui était visible de différentes parties. Le gouvernement a répondu de manière positive et pour la première fois depuis que je le suis, eh bien, ça. La réforme du pays a fait partie ici du discours du trône ici. Alors, on souscrit à différents principes ici qui se trouvent ici dans le préambule de B61. Numéro 1, la loi sur la protection des droits d'auteur, donc ainsi beaucoup sur l'innovation. Et deuxièmement, le droit exclusif qui se confère en vertu de cette loi donne aux détenteurs la reconnaissance de la rémunération qui est très importante pour appuyer ce genre de créativité. Alors, ces droits doivent être dosés, de veiller à ce que le consommateur ait accès et à un usage facile de ces œuvres. Trois. Les avantages de la protection cette protection sont facilités lorsque les autres pays reconnaissent indéniablement que ces normes ici seront plus ici dans différents traités. Et numéro 3, c'est la protection doit être améliorée. Il faut reconnaître également la protection technologique, des mesures y afférentes de façon qui nous permettent ici d'améliorer la protection, l'innovation. Et alors, il ne faut pas que l'on soit victime d'abusation de travail comme quoi ici, voilà, on subit l'influence des États-Unis. On accorde le gouvernement ce plan à s'inspirer de l'expérience américaine, mais de pays, l'Australie, le Japon, la France, la Nouvelle-Zélande. Alors, nous sommes convenus avec la solution faite au Canada, mais cette solution doit être logique et nous exhortons à examiner l'expérience de notre pays qui aura formé leurs lois. Nous estimons ici qu'il y a beaucoup dans la loi ici qui ne fait pas d'objet de controverse, alors tel que C61. Alors maintenant, parlons des controverses. Il y a des questions qui doivent être traitées qui ne sont pas controverses, qui sont simplement difficiles. Alors, nous accueillons la revue, le réexamen de la loi, mais c'est quelque chose qui n'est pas théologique en matière de productivité et de récompense. Essayons peut-être de redoser les choses une fois que nous aurons fait un peu l'expérience de la loi. Et maintenant, un dernier mot ici sur le dosage. J'ai parlé de l'équilibre et tout le monde parle de ce mot-là. Alors, c'est l'homme le plus galvaudé aussi dans les débats sur la protection. Oui, donc c'est très important, bien l'équilibre. Il ne s'agit pas simplement d'obtenir des avantages de la loi, de la protection de la loi, simplement parce qu'on veut diffuser des formations ou simplement parce qu'on a peur ici de gouvernements étrangers. Non, nous ne comprenons pas le droit. Il ne s'agit pas, ça ne veut pas dire ici que les droits des autres disparaissent. L'équilibre, ça sera menacé. C'est que il s'agit vraiment de récompenser les gens pour une œuvre valable. Merci de l'occasion qui m'était donnée de comparer. Nous, à la Chambre, nous réussissons à travailler pour faire en sorte ici que les efforts créatifs soient bien compensés. Merci. Maintenant, on ne peut plus se permettre de retarder les choses. Flower, bon d'abord. Alors, micro, s'il vous plaît. Alors, on y va. Alors, je fais partie du débat original au Canada concernant le traité Walpole. Donc, au MPI en l'an 2000, et il y a des discussions sur ces 60. Et je crois que, enfin, on fait des progrès considérables. Toutefois, je veux répéter, donc revenir sur les commentaires qui ont été faits par mon collègue concernant la question de l'équilibre et la perception publique relativement à ce dosage dans la loi. Nous estimons, nous, au Conseil, que ça peut être utile. Alors, ne pas toujours bien reflété. Et la protection aussi des détenteurs de droits est intéressante. Et ça ne veut pas dire ici que. Alors, très souvent. Donc, il se peut ici que le public soit traité. Non, la loi encourage le créateur à diffuser les bienfaits de son œuvre tout en confiant que son intégrité soit maintenue. Et que tout le monde bénéficiera. Alors, l'hypothèse, c'est que tel est le droit donné au créateur. Tout pouvoir donné au titre de la propriété intellectuelle, on pense ici que c'est le public ici qui y perd. Mais ce n'est pas juste du tout. Il y a une autre question qui concerne le concept ici de l'usage du public et de l'usage du bien du public. Le bien du public est servi par la bonne santé ici, des actes en matière de protection des droits d'auteur, par le commerce en créant de bonnes technologies numériques qui soient absolument compétitives et sur la scène internationale. Alors toutes ces questions apportent un bienfait considérable au public. Et il ne fait pas du tout ici qu'il y aura certains usages que les usagers voudront appliquer au principe de la protection des droits des droits d'auteur et qui ne sont pas conformes au bien du public ou au bien des détenteurs. Alors, en général, les besoins sont assez homogènes. Ne sont pas toujours homogènes, ce qui crée des difficultés en matière de loi. Bien entendu qu'il nous faut un bon dosage quand il y a tant d'incohérences quant à la façon dont on peut interpréter les lois. Et maintenant, concernant les obligations internationales, le Conseil des éditeurs estime fermement qu'il est absolument nécessaire d'établir des normes cohérentes. Ça ne veut pas dire ici que les stratégies doivent être totalement cohérentes vis-à-vis d'un partenaire tel qu'aux États-Unis, au Royaume-Uni. Mais en fait, il reconnaît que ce que l'on doit être compétitif dans son environnement, il doit y avoir une certaine cohérence et il doit y avoir une certaine clarté et beaucoup de simplicité ici, alors qu'il pourra faciliter la tâche de nos partenaires quand ils traitent du Canada. Il faut la peine de mentionner que le Canada a souffert déjà considérablement à cet égard et que nous avons créé l'un des meilleurs sites web existants de matériaux Van Gogh qui a été recueilli par les intérêts européens. Et nous n'avons absolument aucune aide ici de l'Union européenne pour ce qui est d'appuyer pour que nous traitions de cette question-là parce que selon eux, alors nous n'avons pas la loi qui nous protégerait comme cela existe ailleurs. Et notre loi très claire à cet égard, c'est que s'il n'avait pas d'une approche des normes cohérentes et complètes, on peut pas s'attendre à avoir bénéficié des protections qui sont existantes dans les autres pays. Il est important que le Canada mette en œuvre ici les traités OMP. Alors, nous avons choisi de participer alors au débat de l'OMC en Chine, même si nos propres lois ne correspondent encore tout à fait à la teneur de notre entente, dans le cadre de ces traités-là et de l'OMC. Alors, il y a des éléments qui se trouvent dans B61 que je vais évoquer rapidement. Par exemple, l'éducation à distance et d'autres dispositions, et vous signalez ici qu'au niveau international, il n'y a aucun pays qui a fourni des exceptions aussi larges, et c'est que c'est que nous, dont on dit qu'elles sont contenues ici dans C61, le projet de loi C61. Le manque, l'absence de limites, et le fait ici qu'il n'est pas nécessaire, qu'il n'y a pas d'imputabilité requise dans l'usage à considérer comme faisant partie de ces exceptions, c'est que c'est une grande source de préoccupation pour les détenteurs.
Alors, je crois qu'on doit tenir compte de la décision sur les options. La Commission a décidé dernièrement que les licences sont une option tout à fait valable. Nous devrions aussi prendre note du projet Google pour les livres et de l'entente qui n'a pas encore été adossée par les tribunaux. Donc, cela crée des relations de travail et de nouveaux modèles commerciaux pour qu'il y ait un modèle de répartition du contenu par le biais de son moteur de recherche. Nous croyons très fermement que ce qui est disponible sur Internet ne devrait pas être collecté par la communauté éducative dans son ensemble, que le droit d'auteur n'a pas besoin d'être formalisé au Canada et que si cela ne se voit pas dans les conditions ou d'après le contenu sur Internet, si on ne voit pas que l'autorisation est accordée, alors on devrait penser que les mêmes règles s'appliquent et qu'il y a des modèles d'octroi de licence. Je voudrais être certaine d'une autre chose également. Il y a une distinction à faire entre la gestion des droits numériques et des mesures de protection technologique. Le Conseil des éditeurs, et je crois qu'il y a beaucoup d'associations de bibliothèques qui ne sont pas contre la gestion des droits numériques, car cela capte les métadonnées importantes sur l'auteur, sur l'intégrité du travail, sur les versions. Ce sont des choses essentielles afin de pouvoir garder la valeur des œuvres créées. Est-ce que vous pourriez me donner un exemple de l'inconvénient de la gestion des droits numériques? Par exemple, cela veut dire qu'il faudrait une autorisation pour utiliser un morceau ou modifier d'une façon ou d'une autre. En fait, la gestion des droits numériques, ça peut vouloir dire qu'il faut établir des modalités pour l'utilisation du travail, mais au niveau le plus haut, ce sont tout simplement des métadonnées qui viennent avec l'œuvre, qui ne peuvent pas être retirées et qui portent sur le genre de choses dont s'occupaient les préfaces autrefois. Donc, l'auteur, date de publication, les versions. Et évidemment, pour les œuvres créées numériquement, cela va définir comment est-ce qu'on en est arrivé à l'étape actuelle. Il y aura une base de données, il y aura un lien par rapport à d'autres entités. Et il peut aussi y avoir des conditions, des modalités pour l'utilisation. Et puisque cela voyage avec l'œuvre, il y a des pressions. On dit que la gestion serait négative parce que ça va affecter les utilisations faites de l'œuvre, alors on dit que là, la gestion des droits numériques ne serait pas souhaitable. Autre chose, pour ce qui est des questions technologiques, les principes de la loi sur le droit d'auteur. En fait, il faut voir combien on peut respecter et les détails sur les solutions technologiques et les formats. Par exemple, il faudrait éviter tout cet aspect-là. Comme ça, la loi pourrait être en vigueur pendant beaucoup plus longtemps parce que nous avons déjà dépassé le projet de loi C-61 et cela fait un peu plus d'un an, c'est tout, comme vous l'avez déjà dit. Si je vous comprends bien, vous dites que ces questions, qu'on ne devrait pas trop se concentrer là-dessus. Non, je ne vous dis pas que les utilisations personnelles ne devraient pas être traitées, mais je crois qu'il n'y a pas besoin de stipuler la technologie, car ce serait limiter la durée. Aussi, pour ce qui est des fournisseurs et l'utilisation d'outils. Et évidemment, pour les FCI, la nature du travail a énormément changé. Et il y a très peu de FSI où il n'y a qu'un service technique pour les sites Internet. Et s'ils commencent à faire concurrence pour ce qui est de la répartition du contenu, pour ce qui est de la création du contenu, ça ne sert à rien de leur accorder une humilité globale ou de ne pas leur demander de respecter jusqu'à un certain point des normes et des politiques. Et dans la plupart des pays européens, les FSI doivent répondre à certaines normes pour se voir accorder l'humilité en matière de publier des matériaux avec droit d'auteur sans permission.
You're the time. Thank you.
Oh, good afternoon, Mr. Clement.
Merci, Monsieur Clément. Je suis le directeur Albertin du Conseil du détail du Canada. J'aimerais vous remercier de nous avoir invités à participer à cette table ronde et j'aimerais parler des changements qui pourraient être apportés à la loi sur le droit d'auteur. Cette discussion importante va affecter tous les Canadiens. Donc, je vous félicite d'avoir décidé de consulter des citoyens pour voir comment mieux modifier la loi. Nous voulons être des chefs de file dans la communauté mondiale numérique. Notre conseil va préparer un document par écrit, mais je veux bien vous livrer quelques commentaires généraux. Il y a trois intervenants lorsqu'on parle du droit d'auteur, les artistes, le public et les intermédiaires, et entre les artistes et les consommateurs, pour les détenteurs, ils veulent faciliter la tâche aux artistes et aux consommateurs pour s'entendre. Aussi, les détenteurs pensent être les meilleurs pour représenter les consommateurs parce que nous comprenons très bien les désirs et les besoins des consommateurs. Notre philosophie générale sur la loi, c'est qu'il faudrait récompenser les véritables créateurs de notre culture et de notre technologie et de compenser de façon juste et flexible tout en offrant la meilleure position concurrentielle à notre pays. Donc, ceux qui créent devraient être rémunérés comme il faut et ceux qui ont payé pour ces créations devraient pouvoir s'en servir de façon innovatrice, souple et appropriée. Aussi, la loi ne devrait pas mettre les consommateurs canadiens dans une situation où ils seraient désavantagés par rapport aux consommateurs ailleurs. Il ne faut pas encourager les Canadiens à aller acheter ailleurs pour des dispositifs électroniques et pour des médias. Donc, il va peut-être y avoir des changements, mais il faudra faire preuve de prudence et assurer la neutralité technologique. Notre loi doit être transparente. Les familles canadiennes ne devraient pas avoir à consulter des avocats dans ce domaine pour la légalité de leurs activités quotidiennes. Il faut avoir des lois pour ceux qui violent ces lois en connaissance de cause, mais il faut aussi être sûr que les consommateurs qui se servent de ce matériel n'aient pas à craindre des poursuites. Le Canada devrait être des chefs de file, parler des droits des utilisateurs et il faut avoir des dispositions souples pour que l'on puisse avoir accès à du matériel pédagogique et culturel et nous devrions aussi avoir des modèles nouveaux plutôt que de garder des modèles qui sont déjà révolus. Je vous remercie encore une fois de m'avoir donné l'occasion de vous parler en général et nous allons vous remettre quelque chose de plus détaillé par écrit dans le mois qui suit.
Fair dealing. Basically that Canada.
En fait, le Canada devrait être chef de file pour prendre compte des droits des utilisateurs en mettant l'accent sur le concept du fair dealing, de leur accord d'être ici. Et nous croyons que la réforme du droit d'auteur, que cela affecte les étudiants et leur utilisation de matériaux. Et les étudiants et les jeunes Canadiens sont encouragés par l'utilisation faite par le gouvernement des médias sociaux pour créer plus de transparence. Et oui, cela nous encourage beaucoup. Et je vous suis aussi sur Twitter. Donc, j'aimerais dire que les étudiants appuient très fermement la protection du droit de la propriété intellectuelle par le biais de ces lois. Et ces lois doivent assurer un équilibre entre la protection des producteurs et des garanties d'accès raisonnables au public. La capacité des Canadiens d'avoir une participation pleine et entière dans l'économie, cela dépend de la qualité de notre éducation postsecondaire, que ce soit des dispositions sur faire des lignes très robustes ou d'autres moyens. Ces institutions doivent avoir le droit de se servir de ces documents à des fins éducatives. Alors, la capacité de se servir de ces matériaux pour la recherche et pour l'enseignement, ce sont des éléments nécessaires de toute éducation postsecondaire de qualité. Notre union des étudiants voudrait voir le Canada continuer à être leader dans ce domaine et c'est grâce à une solution bien équilibrée face aux droits d'auteur qu'on va y parvenir. On est venu avec trois points à proposer pour ce qui est d'adapter la loi, de voir comment est-ce que l'on fait la dissémination du matériel de cours. Il ne faudrait pas qu'il y ait des limites peu raisonnables. En voyant ce qui a été dit à propos du projet de loi C-61, c'est un problème. Peut-être qu'il faudrait détruire moins de matériel à la fin d'un cours. Ça ne tient pas compte du fait qu'on se sert souvent de ce matériel à l'avenir pour étudier et surtout pour des diplômes professionnels. Et ces autres documents ont une grande importance. Alors, nous pensons aussi remettre en question cette idée de détruire des plans de leçons si c'est toujours le même plan qui est utilisé et s'il n'y a pas d'autre dissémination. Alors, nous ne voudrions pas non plus voir des limitations. Nous voudrions obliger nos institutions de consacrer des ressources déjà limitées à la collecte, à la destruction et à la police de ces œuvres sous droit d'auteur. Notre deuxième point, c'est de voir les autres mécanismes anti-circonvention, ce qui limite les activités, donc cela limite les activités légitimes pour des utilisations qui ne sont pas en violation. À l'Université de Calgary, nous avons plus de 2200 étudiants qui ont accès à notre centre de ressources et ils doivent pouvoir se servir de technologies pour adapter et convertir le matériel dans des formats plus accessibles.
Is important to be inclusive to the learning needs of students.
Alors, je crois que nous pouvons aller plus loin avec cette possibilité pour les étudiants qui apprennent d'une autre façon. À l'avenir, on aimerait que chaque étudiant puisse avoir la possibilité de se servir à des fins éducatives du matériel provenant d'un cours. Et notre troisième point.
Et premièrement, quand nous sommes accordés par des discussions de permettre aux bibliothèques de diffuser donc du matériel de transfert numériquement. Bon, voilà, l'âge numérique, on peut l'appeler. Alors, il y a beaucoup plus ici d'utilisateurs ici qui recueillent ces informations et nous traitons ces informations par des moyens numériques tels que des laptops et d'autres instruments. Alors, plus tard, on va faire en sorte ici que les bibliothèques ici s'engagent à transmettre ces informations aux usagers de manière numérique. Alors, ça a présenté des opportunités afin d'offrir des transmissions d'informations opportunes de façon à faciliter l'apprentissage et simplement faciliter à la créativité des étudiants et à l'esprit innovateur. Rapidement, nous appuyons la nécessité de modifier la loi sur la protection afin de promouvoir le leadership du Canada dans une économie numérique. Les lois futures doivent tenir compte ici des droits des usagers comme des créateurs. Ici, il faut qu'il y ait une bonne gestion de ces systèmes. Alors, les lois futures doivent promouvoir une plus grande numérisation ici de l'environnement, donc d'études dans les établissements postsecondaires. Merci. Rob. Association des bibliothèques. Je représente l'association des bibliothèques. Alors voilà, ici, donc, je suis également libre, donc bibliothécaire à l'Université de Calgary. Notre association. Alors, l'Association canadienne des bibliothécaires ici est contente de pouvoir participer à ces débats. Alors, je vais présenter différentes préoccupations qui touchent les bibliothèques. Premièrement, être traité adéquatement à la bibliothèque, jugement de la Cour suprême récemment concernant la protection. C'était le jugement CCH. Alors, ce tribunal ici que c'est le droit, que le traitement adéquat et juste, c'est le droit des usagers. Il doit y avoir un bon équilibre entre les différents droits. Il faut que la loi contienne les éléments plus importants de la décision CHH. Alors, il y a 6 facteurs ici qui émanent de cette décision de la Cour suprême incorporée ici, qui devraient être incorporés à la loi. Il y a une autre question concernant le traitement juste. Cela touche ici les dommages et intérêts. Ceux qui agissent de bonne foi comme quoi leurs réactions en matière de droit sont équitables, ils sont protégés par un autre droit, ne va pas être assujettis aux dommages et intérêts. Donc, conformément à 604 de la loi sur le copyright américain. Nous estimons que c'est un gros avantage que les Américains utilisent l'usage juste comparé à la façon dont on applique ce principe ici. Cette objection doit s'appliquer aux membres individuels du public ainsi qu'aux bibliothèques, aux institutions d'éducation et leurs employés. Simplement pour mentionner quelque chose tel que par l'examen qui a été fait au Royaume-Uni, alors les études sur les communications par ordinateur récemment aux États-Unis ont prouvé ici qu'un traitement adéquat, alors cela contribue à l'économie et aux industries et les industries de la création ont besoin de quelque chose de solide. Autre option ici, ce qu'on appelle les serrures, les fermetures numériques. Cela concerne aussi le contenu numérique. Alors, la moyenne des bibliothèques utilise 40% de son budget sur le contenu numérique. Alors, il y a 10 ou 12 ans, c'était moins de 10%. Alors, je n'ai pas la statistique sur le type de librairie, mais tout type de bibliothèque, eh bien, est le siège ici de moins en moins de textes imprimés. Évidemment, ça a un effet très, très pertinent aussi sur le traitement équitable. On veut que le gouvernement ici, dans l'application des traités, cela permet ici le contournement de ces serrures numériques. Il y a Bill C-60 de 2005 et la loi actuelle au Danemark qui légitime ici l'usage de ces informations. Alors, au Canada, cela veut dire ici qu'il faut appliquer certains traités. Et maintenant, nous deviendrons le quatrième membre du G8 qui pourra le faire. Alors, à l'heure actuelle, ici, alors, il y a 5 pays qui n'ont pas encore mis en œuvre ces traités. Il y a une autre préoccupation quand cela concerne ici les handicapés sur le plan perceptuel. Alors, pour ce qui est de cette catégorie d'usagers, à l'heure actuelle, sans le fait qu'ils soient plus numériques ici, de contourner ces serrures numériques ici, il est interdit ici d'utiliser les livres donc électroniques. Mais il y a une différence d'utilisation entre les États-Unis ici avant 2004, c'est très, très commun pour le SNIB et les organisations qui ont présenté des formats alternatifs d'aller aux États-Unis pour que les syndicats puissent utiliser cela et pareillement pour que les bibliothèques offrent des formats autres ici que pour utiliser les déficients ici. Avant 2004, toute université canadienne, y compris l'Université de Calgary, achetait par exemple aux étudiants qui avaient des difficultés perceptuelles des cartes de membres ici pour les dyslexiques. C'est une information américaine qui fournit des textes à l'université sous une forme différente. Alors, ce qu'il est, il est, alors c'est beau, c'est beaucoup plus de passer par l'organisation que par l'organisation des aveugles d'ici. Pareillement, il y a beaucoup de bibliothèques publiques. Lorsqu'on essaie d'obtenir des informations qui n'étaient pas accessibles sous une forme alternative ou de CNIB, s'adressait au service des bibliothèques américaines et rapportait ces informations pour les déficients ici. Depuis l'amendement, les États-Unis ne permettent plus, de par la loi, l'exportation de formes alternatives d'autres pays, y compris le Canada. Et depuis 2014, ici, le gouvernement canadien et d'autres organisations que le CNIB et les bibliothèques, quelle que soit la pratique qu'elle était avant 2004, il faut interpréter la loi qui n'a pas changé pour ne pas permettre l'exportation de formats alternatifs à l'extérieur de nos frontières. Et en fin de compte, il y a beaucoup de choses qu'il me fait beaucoup ici, donc dans ces 62, soit le convertissement de matériaux dans les formats alternatifs. Alors, pour les personnes avec difficultés de perception sans emprunter la loi. Alors, il y a certaines parties touchant ces formats. Quand quelque chose qui est converti, ça devrait être ici dans le format et qui correspond aux besoins de la personne plutôt que cela entraîne donc des limites en vertu de l'article 132 maintenant. C'est la loi de protection actuelle. Mais il est grand temps que le gouvernement ici abandonne ses droits. Le gouvernement doit introduire de la loi qui stipule clairement ici que ce genre de protection ne s'applique pas aux publications. Et qu'il y a tout ça, et qu'il y a d'autres, et que les publications devraient partir du domaine public, nous allons suivre d'autres administrations à cet égard. Alors, supposons que vous aviez un scientifique qui travaille pour le Conseil national de recherche et que le scientifique publie un papier de recherche qui comprend, par exemple, des découvertes. À votre avis, ça ne devrait pas être protégé. Ça ne devrait pas être protégé. Alors, c'est intéressant maintenant. On m'a demandé de consulter quelqu'un d'autre. Alors voilà, c'était des journaux scientifiques canadiens qui avaient des difficultés, il y avait des problèmes concernant. Alors, il y a des demandes en vertu de la loi sur la protection des droits d'auteur. Alors, le problème se présente sur quand il publie un article ici, le scientifique américain travaille pour un organisme gouvernemental, il refuse ici de signer la loi de la protection. Il ne sait pas comment obtenir cette protection du gouvernement. Alors, ce journal se voit publier des articles sans autorisation. Les scientifiques les soumettent parce qu'ils veulent obtenir être publiés. Car ils obtiennent certaines reconnaissances quand ils publient des articles. Mais en raison du fait que ni le public ni l'éditeur ne sait comment obtenir l'autorisation en vertu de la loi sur la protection des droits d'auteur. Alors, la protection, vous savez, c'est très vague et cela cause. Alors, les pratiques actuelles font que ce journal. Alors, entraîne beaucoup de difficultés pour ce journal scientifique. Il y a beaucoup d'autres questions, beaucoup d'autres problèmes. Différents ministères qui ont une procédure différente quant à la question de savoir si l'on devrait autoriser la publication de ces documents gouvernementaux. Alors, je ne veux pas critiquer les travaux publics, mais je ne crois pas que ce ministère ici sera très clair sur la façon d'obtenir ces autorisations. Voilà, très bien. Voilà, c'est une question qui a été soulevée hier également. Alors, sans aucun doute que je vais examiner la chose parce que je connaissais bien le sujet avant que ça ait été soulevé. Alors, et enfin, la dernière préoccupation que je repère de minute préparée, c'est alors la responsabilité des FSI. Alors, nous appuyons le régime établi par les tribunaux au Canada plutôt que d'opter pour un style américain. Alors, une chose qu'on a mentionné, c'est en plus ici des FSI commerciaux. Beaucoup d'organisations sont plus lucratives et qui, comme FSC, donc sont traités par la loi comme les bibliothèques, les commissions scolaires, les universités, les collèges. Alors, tout changement qui sont apportés au FSC, régi par le gouvernement, cela affecte davantage ici que les FSC commerciaux et autre chose ici. Dans un environnement où il n'est pas contre la loi ici d'invoquer de fausses protections. Il y a beaucoup de, depuis le DMC en 89, il y a beaucoup de cas. Il y a un autre député qui a adopté ces lois en 2006 avec des organisations qui demandent de faux copyright. Donc, cela a été suivi de fermeture de ces sites. Il y a une autre chose ici que je n'ai pas vraiment préparé. Alors, l'Association des bibliothèques canadiennes ici ne projette pas de poser des changements à l'article 30.2 de la loi. Alors, cet article 30.2 permet aux bibliothèques et les archives et les musées leur permet d'agir au nom de leurs usagers d'une manière juste. Cela est utilisé pour différentes choses, y compris ici les prêts interbibliothécaires. On estime que le jugement CCH avait abouti à cette question-là, que nous recherchons que changement à cet article de la loi à ce stade. Y a-t-il des changements qu'elle proposait à C61 à ce titre-là? Alors, le gouvernement l'a changé et je sais qu'il y a différentes communications que j'ai eues avec des personnes à différentes époques en 2007. Et dans la consultation de 2001 et 2002, nous avons demandé des changements à l'article 30.2. Alors, bien entendu, que c'était avant le CCH. Et il semble ici qu'il y ait une incompréhension. Le comité des bibliothèques est intéressé au changement. Nous estimons que la Cour suprême, pour le moment ici, prendre en compte nos préoccupations. Merci. Nous allons maintenant passer à Cynthia Raphaël. Merci, Cynthia. Alors, c'est Cynthia Raphaël. Je suis vice-président des questions de réglementation à chaud. Et merci de l'occasion qui m'a été donnée. J'ai fait des remarques aujourd'hui. Nous allons garder ces remarques à un niveau très, très général à ce stade. Mais nous allons faire également des propositions avant le 13 septembre. Un show à des fins contextuelles, c'est très diversifié. Nous fournissons divers services aux Canadiens qui veulent partie très importante de l'économie numérique. Nous fournissons des services Internet, télévision, câble, télévision, des services de distribution, services de diffusion par satellite, des services à plus de 3 millions de Canadiens, de foyers canadiens ainsi que des services numériques. Et en plus aussi de nos services de diffusion par Internet et autres, tout cela donc subit les effets de la loi sur la protection des droits d'auteur parce que nous intéressons à ce qui va se faire pour notre compagnie et pour nos clients. Alors, la loi de protection au Canada devrait promouvoir et encourager l'innovation et le développement ici de l'économie numérique canadienne. Les Canadiens ont adopté le pouvoir d'Internet pour accéder, partager des contenus, des idées, et nous sommes préoccupés du fait que les réformes ne sont pas apportées à la loi ou qui s'y sont faites, mais qui va réduire la capacité d'utilisation d'Internet. À affecter notre capacité ou les encouragements à faire des investissements continus pour le bien du public. Plus particulièrement, je crois que une grande préoccupation pour nous, c'est l'extension de l'exemption FSI dans la loi qui s'applique non seulement au droit de la communication, mais également à différents droits qui sont inhérents au droit, y compris les droits de reproduction. Et peut-être même toutes les protections technologiques, mesures de protection technologique que l'on pourrait proposer. Dans notre rôle ici comme FSI, nous fournissons l'accès à Internet et nous facilitons l'usage de l'Internet par les consommateurs. Nous ne sommes que des intermédiaires et l'objet de l'exemption, ça sera, n'a rien à voir ici avec l'affichage du contenu sur le web par Shipshaw. Nous avons un site web, mais ça sera relié à la fonction d'intermédiaire de notre réseau. Tel que de transmettre de contenu à la demande des usagers, l'accueil de contenu de tiers, ce qu'on appelle caching, afin de faciliter la performance du réseau et l'offre de certaines fonctions de recherche. Ainsi, la continuation et l'extension de l'exemption FSI est très importante pour nous. Et deuxièmement, alors, nous sommes préoccupés par l'existence au Canada ici du régime d'avis. Si l'on va dans cette voie, concernant la violation de la protection sur Internet, nous n'envoyons pas une intervention graduée ou un mécanisme de graduation qui serait instauré. C'est la rejetée par différentes compagnies, différents pays, et nous estimons que c'est une mesure disproportionnée vis-à-vis des violations sur Internet possible, le fait de refuser un foyer les services Internet. Alors, cette mesure serait trop draconienne, à mon avis, et ce n'est pas voulu si on veut promouvoir l'usage en ligne de services à bande large. Alors, quelle est votre position sur les avis de takedown? Il y a la réponse graduel. Alors, c'est un avis volontaire que nous proposons. Alors, ce genre d'avis, c'est un mécanisme. Voilà, nous avons dit ici que le nombre d'avis de prévus que nous avons reçus de détenteurs de droits depuis quelques années, ça a accru exponentiellement. Comparé à la première année, on a commencé à enregistrer ces avis et maintenant il y a des dizaines de milliers d'avis par mois. Alors c'est tout un fardeau qui se lie de toutes les administrées. Nous n'avons pas de système automatisé à cet effet chez Shaw, soit le développement du système informatique en tant que tel exigerait d'allocation de ressources, et si ce n'est pas informatisé, vous voyez, c'est un fardeau énorme. Ça représente environ 40 personnes qui devraient le faire. Par conséquent, alors nous aimerions aussi qu'il y ait un mécanisme de recouvrement des coûts qui soit instauré afin à la fois de nous aider pour la distribution de ces avis, mais également pour imposer une limite aux demandes pas sérieuses. Et autre chose qui nous préoccupe. Alors, c'est le traitement juste et équitable tel qu'il est. Alors, comparé à une exception, donc inspiré du modèle américain, nous estimons que le fait de permettre aux consommateurs de faire un usage personnel de documents protégés pour lesquels ils ont payé, mais il faut certaines souplesse dans ce contexte-là. Cela est raisonnable et c'est dans le meilleur intérêt du public pour ce qui est d'élaborer cette bande large dans une économie numérique. Et en fin de compte, bien que cela n'ait pas été discuté dans C61, on aimerait vous dire ici que nous nous opposons à une extension de la retransmission du régime de transmission actuel en vertu de la loi sur la protection, soit à l'article 31. Maintenant, cela s'applique à la retransmission de programmes et de signaux à distance. Nous ne savons pas ici qu'il y a des plans ici d'en assurer l'extension, mais en raison du rapport ici des droits de transmission et des droits de protection des droits d'auteur et du cadre législatif et de la réglementation de la diffusion, c'est un domaine qui doit être traité avec beaucoup de prudence. Dans la mesure, on peut qu'on puisse donner des droits de signaux aux diffuseurs. Cela pourrait nécessiter des dépenses énormes ici, par exemple pour les détenteurs américains, si l'on prévoyait une réciprocité en vertu des traités. Même l'ALENA comporte une exemption, mais ce ne sera pas suffisant, à notre avis, pour les empêcher de faire des demandes qui pourraient nuire à notre économie et nuire à ce qui se fait dans le système de radiodiffusion au Canada. Alors voilà, je voulais donc dire ces limites. Et vous n'avez pas adopté cette position depuis plusieurs années. Alors dans le cadre des négociations MPI, dans le cadre donc des traités, et à mon avis le Canada devra faire une exception en vertu de ce traité pour maintenir ici la transmission du régime actuel de transmission, nous appuyons cette position.
Merci beaucoup, cela nous est très utile. Gary, à vous la parole. Merci, Monsieur le ministre, de m'avoir donné cette occasion de prendre parole. Je m'appelle Gary Mavara et je représente Chorus Entertainment et je représente aussi l'Association canadienne de radiodiffuseurs. Ce que j'aimerais faire cet après-midi, c'est de vous parler un petit peu de qui nous sommes, vous parler un petit peu de ce que devrait être votre approche vis-à-vis de cette loi et vis-à-vis de son administration. Et puis, je vais parler de quelques propositions détaillées. Tout d'abord, puisque nous sommes dans une salle de classe, salle de classe assez chaude. Un jour d'été, j'aimerais commencer par vous montrer un petit quelque chose que j'ai. C'est pour illustrer ce que j'ai à dire. Je vais vous remettre ce document, Monsieur le ministre, et faire circuler l'autre après. Donc, vous voyez une page, le meilleur programme de licence de l'année. Et vous voyez toute la liste. Ce sont des finalistes pour ce prix-là. Il s'agit d'une activité organisée par l'Association de Merchandising International. Donc, c'est des gens de partout au monde qui donnent des licences pour des propriétés partout au monde. Et l'un de nos produits, Course, Bakugan Battle Brawlers, donc c'est un jeu à plusieurs plateformes, un jouet, un programme de télévision. En fait, c'est l'un des jouets qui se vendent le mieux. D'ailleurs, Walmart a envoyé un mot pour dire combien de jouets se vendaient bien. Donc, c'est pour nous vanter parce que nous avons remporté ce prix, mais pour montrer nos concurrents. Il y avait les Jeux Olympiques de Beijing, il y avait The Dark Knight, la propriété de Warner Brothers, aussi le baseball des ligues majeures. La page d'avant, nous avions aussi été finalistes pour meilleur programme de marque et un de nos partenaires, Spin Masters, a aussi été finaliste pour un prix et Spin Master avait remporté le prix dans sa catégorie. C'est une compagnie de jouets avec laquelle nous travaillons assez souvent. Je soulève ce point-ci parce que, comme vous avez vu à Canada 3.0, et d'ailleurs nous étions bien contents de vous y voir, et je crois que vous allez reconnaître que les gens dans cette salle croyaient tous que les compagnies canadiennes peuvent faire concurrence à l'échelle internationale, et nous pouvons même être des lauréats, Chorus, RIM, OpenText. Notre intention, c'est pas juste de faire concurrence, mais c'est d'être chef de file. Donc, nous avons grandement apprécié votre soutien. Et je devrais vous dire qu'il va y avoir 3.1 au mois de mai. Ce sera encore plus important, encore mieux que ce que vous avez vu cette année. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Association canadienne des radiodiffuseurs? Il y en a qui pensent que nous sommes des utilisateurs de droits d'auteur. C'est vrai, mais nous sommes aussi d'importants créateurs d'œuvres sous droits d'auteur et nous voyons la valeur de nos œuvres et la valeur des propriétés que nous achetons et que nous utilisons. Et la perception revêt de l'importance. C'est parce qu'il y a beaucoup de discussions. En fait, il y en a beaucoup qui vont vous parler. Vous allez avoir les metteurs en scène, les acteurs, les écrivains, les producteurs, etc. Et tous dépendent de la valeur que nous créons au niveau radio-télévision. Par exemple, les compagnies de musique vont vous parler. Et si les stations de radio n'arrivent pas à créer la valeur de ces œuvres-là, soit en décidant des tarifs ou soit en suscitant l'intérêt dans ces œuvres, il n'y a pas de système. Donc, notre réussite est nécessaire pour qu'ils réussissent. C'est notre premier point. Nous créons énormément de valeur et nous espérons que la loi et que son administration vont reconnaître ce fait. Qui sommes-nous? Les radiodiffuseurs, traditionnellement, étaient vus comme étant juste des utilisateurs d'œuvres, mais dans le monde numérique, par exemple ici à Calgary, notre animateur Dave Rutherford, nous pensions que ce qu'il faisait était éphémère parce qu'il parlait après, ça ne restait pas. Mais maintenant qu'on peut tout conserver grâce à des balados, c'est du contenu et c'est un contenu qu'utilisent les Canadiens, dont profitent les Canadiens. Les radiodiffuseurs font ça tous les jours. Je vous ai parlé de créer la valeur de la musique. Dans un monde où vous pouvez vous acheter de la musique, en fait, cela va sans dire. On peut avoir de la musique n'importe où grâce à un iPod, à Internet. Mais c'est les radiodiffuseurs qui suscitent de l'intérêt pour cette musique-là. Lorsqu'ils parlent des chansons, même côté nouvelle musique, même ces jeunes, ils écoutent toujours Fox, notre station radio à Vancouver, ou Edge à Toronto. D'ailleurs, je crois que vous avez entendu nos annonces, quel bon moment pour acheter une voiture. Donc, c'est nous qui suscitons l'intérêt et nous sommes un élément fondamental du système. Côté télévision, nos opérations d'actualité, les dramatiques, les programmes de réalité que nous créons énormément de valeur au Canada. Et Corus Entertainment est peut-être l'un des plus grands producteurs au monde d'émissions animées pour enfants. Nous sommes l'un des plus grands producteurs de programmation et nous publions aussi avec Kids Can Press beaucoup de livres pour les enfants. Donc, nous avons plusieurs cordes à notre arc et nous avons un intérêt soutenu là-dedans. Si nous ne parvenons pas à réussir, il y a beaucoup de ces groupes que vous allez voir qui ne vont pas réussir non plus, car ils ont besoin de la base de nos assises. Pour ce qui est de recommandations précises, ce qui nous intéresse côté radio, c'est une exonération pour l'utilisation éphémère. Comme vous le savez, dans la loi actuelle, il y a une exonération à cette fin-là, mais il y a une dispense additionnelle que l'on a vue à la dernière minute dans le projet de loi qui a été adopté. Et cela a donné lieu à une dispense si collectivement l'on demande un tarif. Et donc, des radiodiffuseurs avaient créé un système numérique qui avait réduit les coûts pour les compagnies de musique. Ils n'avaient plus besoin de nous envoyer un disque et à payer ses frais d'envoi. En fait, nous avons dû payer parce que lorsque nous recevions leur envoi numérique, les entités de musique pensaient qu'il fallait appliquer un tarif comme dispense à l'exonération. Donc, on paie environ 10 millions de dollars par an pour cela. Donc, il y a eu une pénalité pour le fait d'adopter cette approche numérique. Nous payons déjà beaucoup juste pour nous servir de la musique, c'est des tarifs. Donc pour nous, c'est un tarif supplémentaire qui empêche l'innovation et cela montre ce que j'ai déjà dit. Si nous ne pouvons pas réussir en tant que radiodiffuseur, l'industrie de la musique va peiner aussi parce que dans le milieu actuel, nous vivons dans un univers mondial et il faut avoir une radio locale pour entendre la musique canadienne. Est-ce que vous avez des statistiques sur les habitudes d'écoute à l'appui de ce que vous venez de dire? Donc, des jeunes qui écoutent de la musique, ils écoutent encore la radio. C'est comme ça qu'ils apprennent quels sont les nouveaux contenus. Je vais vous donner un très bon exemple. Nous avons conclu une entente avec le responsable d'iPhone donc pour faire passer nos stations de radio. Et nous pensions qu'il y aurait peut-être 30 000 abonnés. Et nous avons déjà dépassé 130 000 en 6 moi, donc il y a énormément de gens sur les nouveaux dispositifs qui cherchent à avoir accès à notre contenu. Nous sommes très fiers aussi d'avoir Alan Cross qui fait de la radio depuis assez longtemps et nous avons une diffusion sur l'histoire du rock. C'est très réussi pour les jeunes, les moins jeunes. Ils téléchargent tous. Donc nous pouvons vous remettre ces renseignements-là sans problème. À cet égard, nous allons mieux comprendre le public pour la radio. Je ne savais pas si j'étais toujours pertinent ou si j'étais l'exception. Oh non, vous êtes très pertinent. Alors, il y a des compteurs personnels qu'on va voir avec les radios et nous sommes ravis. C'est quelque chose qui existe au Québec et d'autres marchés vont l'adopter, y compris Calgary. Nous avons eu des résultats de tests à Calgary, mais je puis vous dire que nous sommes très contents des résultats sans pouvoir vous les donner. Et ce que nous avons vu, c'est qu'il y a une augmentation dans la portée de la radio. Nous voyons, en fait c'est un peu intuitif, nous voyons que les gens écoutent la radio un peu partout et maintenant pour revenir aux détails, nous aimerions voir une exonération pour utilisation éphémère. Nous pensons que c'est dans le meilleur intérêt de l'industrie de la musique. Deuxième chose, et là il s'agit de l'administration de la loi plutôt que de la loi elle-même, il faut trouver comment rationaliser l'administration du droit d'auteur. La collectivisation devait servir ou devait être efficace et devait établir une certaine garantie. Et comme je l'ai dit au président de la commission du droit d'auteur, j'étais là pour les audiences sur la radio. Il y avait 44 avocats dans la salle. Moi aussi, je suis avocat. Mais j'ai dit, le fait d'avoir 44 avocats dans une salle, ce n'est pas forcément la façon la plus efficace de perfectionner un régime, un système. C'était un processus très, très coûteux et le résultat était très peu sûr. Donc, il va falloir adopter une autre approche. Sinon, on ne va pas pouvoir faire concurrence à l'échelle internationale. Parce que c'est le coût administratif et c'est la lenteur de l'administration. Donc, ces audiences, ils parlent d'un tarif qui est déjà 2 ans. Donc, les enregistrements sonores, nous pensons, comme ce que l'on voit avec la lutte aux États-Unis, nous pensons que nous créons beaucoup de valeur pour la musique et nous payons assez cher cette musique. Et établir de nouveaux droits, cela va juste nuire notre réussite et cela va rendre plus complexe la situation actuelle. Comme j'ai dit, se retrouver avec 42 avocats dans une salle. Une dernière chose, et ce n'est pas tellement dans le domaine du droit d'auteur en tant que tel, mais il s'agit de quelque chose que nous allons explorer à Canada 3.1. Il s'agit de la question de la gestion des droits numériques. Et là, ce n'est pas pour parler de la loi ni de l'aspect technique. Au Canada, il y a des occasions qui se présentent. On pourrait être chef de file pour ce qui est de mettre au point une taxonomie pour la gestion des droits. OpenText, par exemple, ils ont le meilleur logiciel du monde, mais si nous n'avons pas une langue qui sera adoptée par tout le monde pour remplir tous ces domaines, le logiciel ne va pas vraiment marcher. Et nous avons toute une occasion au Canada. On est respecté en tant que créateur et en tant que courtier honnête. Donc, c'est l'occasion qui se présente à nous de créer un genre d'approche Wikipédia face à la taxonomie. Donc, comment décrire les droits. Et nous allons vous parler davantage de cela dans notre mémoire. Mais là, Monsieur le ministre, nous pouvons être vraiment chef de file en adoptant la bonne approche. Merci beaucoup. En dernier lieu, et non pas le moindre, Renée de Digital Alberta. Renée Smith, directrice générale pour Digital Alberta. Je me remercie, Monsieur le ministre Clément et Industrie Canada, de nous avoir invités à participer à ce forum et de nous avoir donné l'occasion d'exprimer la position de nos membres. Maintenant, pour vous expliquer ce que c'est Digital Alberta, nous sommes un organisme à but non lucratif qui représente l'industrie des médias numériques. Et nous avons des ateliers de travail de défense et nous faisons la promotion à l'échelle provinciale et internationale. Nous avons un conseil qui représente l'industrie et je parle en leur nom ici aujourd'hui. Et je vais essayer de parler en termes très simples. Il y a 2 camps, soit il faut tout donner et que tout soit gratuit ou il faut s'agripper aux droits d'auteur et voir des lois encore plus fermes. Dans notre monde, les jeunes aiment mieux la première option, mais ce n'est pas parfait parce que ça veut dire que tout le travail n'a pas de valeur. On n'a pas encore de bon modèle qui permet d'avoir une création avec des sources ouvertes. Donc, nous voulons qu'il y ait un traitement équitable de tout le matériel avec droit d'auteur pour limiter le commerce sur le marché noir. Et pour cela, il faut permettre aux consommateurs d'avoir un accès plus facile et il ne faut pas limiter la technologie. Il faut pouvoir acheter un film ou une chanson et pouvoir nous servir sur les plateformes qui nous chantent. En limitant l'utilisation basée sur l'éditeur, on limite le marché et ça fait qu'il y a plus de possibilités illicites par la suite et cela ne fait rien pour l'artiste. Nous représentons la nouvelle vague de créateurs. Notre mandat, c'est de créer ces créateurs par les éditeurs, par les diffuseurs, par les plateformes. Et pour ce faire, il faut que le consommateur ait un bon accès à beaucoup de contenu sur plusieurs plateformes afin d'avoir un marché fort pour les artistes. Nos créateurs de contenu veulent donner un accès facile à leur matériel et se faire bien payer, rémunérer pour cela. Donc, il faut éliminer les barrières entre les artistes et les consommateurs. Comme ça, il y aura un plus grand marché et comme ça, l'industrie culturelle et artistique pourra prospérer. Merci.
Just so I understand.
Alors, si je comprends bien, vous, évidemment, vous voulez encourager une interaction directe entre le créateur et l'utilisateur et vous voulez voir moins d'intermédiaires, le moins d'intermédiaires, le mieux d'après vous, oui. Je ne sais pas de dire à votre place ce que vous aviez à dire, mais j'essaie de comprendre. Donc, vous n'êtes pas contre le fait de voir des artistes rémunérés pour leur contenu, mais vous voulez créer des plateformes où cela se ferait de façon directe. Oui, comme ça, le consommateur a plusieurs possibilités, plusieurs plateformes possibles. Par exemple, s'ils achètent un CD à Walmart qui leur appartient, mais qu'ils ne peuvent pas mettre légalement sur leur iPhone. Alors, c'est difficile de faire concurrence. Je ne sais pas si j'ai la solution. Oui, je crois que tout le monde essaie de trouver cette solution. Bon, je voulais savoir si vous avez quelque chose à dire par rapport à ce qui est gratuit. Vous dites que cela ne marche pas, mais il y a plus de recherches sur l'économie de ce qui est gratuit, mais je ne vais pas en parler ici. Mais il faudrait peut-être y réfléchir davantage. C'est tout un défi dans notre siècle. Bon, pour revenir à ce que vous avez dit, vous pensez qu'il faut récompenser, rémunérer la créativité et la propriété intellectuelle. Oui, c'est le traitement équitable, l'utilisation équitable. Très bien. Bon, nous avons fait un tour de table. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions d'après ce que vous avez entendu ou est-ce que vous avez d'autres commentaires que vous voudriez faire? Catherine, microphone, s'il vous plaît. J'aimerais revenir à l'équilibre ou à la différence entre l'utilisation équitable et le traitement équitable. Parce que je crois qu'on a toujours l'impression que l'herbe est plus verte de l'autre côté. Et pour nous, l'utilisation équitable, c'est un droit plus vaste et plus prévisible. Aux États-Unis, ce n'est pas forcément ce qu'ils pensent parce qu'il y a des facteurs qui s'appliquent au traitement équitable. Ces facteurs, en fait, l'envergure est déterminée par les tribunaux et souvent, c'est des années après la violation prétendue. Donc, la prévisibilité n'est pas une force. Il faut aussi voir l'utilisation équitable en tenant compte de toutes les autres lois sur la propriété intellectuelle aux États-Unis. Et cela va avec deux autres lois qui sont beaucoup plus rigides que ce que l'on propose au Canada. Donc, c'est un peu trop simpliste de dire que le traitement équitable et l'utilisation équitable pourraient être utiliser de façon à avoir un régime à utilisation équitable au Canada.
Maintenant, c'est comme l'usage et le traitement équitable et le concept des droits. Il faut commencer de la perspective sur comme quoi c'est le Canada. On est au Canada. Et l'une des choses qu'on rappelle constamment dans le livre de Chris Anderson de l'antenne, c'est formidable. Si vous aviez les détails de construire la tête de l'animal et le défi que nous avons au Canada, le marché étant ce qu'il est, et si dans le contexte de devoir concurrencer le reste du monde, alors c'est très difficile de véritablement faire en sorte que cette tête soit bien créative. Il faut continuer à avoir l'aide en matière d'investissement de la part du gouvernement. Et autre chose qu'il faut reconnaître, le fait, c'est qu'il nous faut une échelle ici pour créer ce genre de protection au Canada. Alors, vous savez, on étudie la concurrence. Mais ce troisième point, pour ce qui est du traitement équitable, vous savez qu'il faut faire que la loi soit bien conçue afin peut-être de parler de la question de la rémunération. Parce que si la première partie n'est pas bien traitée, alors la deuxième partie, si, ben, peu importe. Alors, Michael Geist, alors, c'est un bon collègue, mais je n'ai pas toujours d'accord avec lui. Et avec tout le respect qui est dû à Casey, qui pourrait être le ministre. J'ai été très impressionné ici par son exposé. Alors, l'usage d'œuvres, il faudrait bien connaître le régime, qui soit bien clair ici pour les œuvres en question. Combien faut payer? On va parler de la rémunération. Quelles sont les exemptions? Mais si la première partie n'est pas bien faite, la deuxième partie ici ne va pas marcher non plus. Vous avez raison. Mais est-ce qu'il est possible d'avoir ce genre de discussion? Quand on parle toujours d'équilibre, et cette question a été soulevée hier et aujourd'hui. Vraiment, ça dépend ici de l'observateur. Chacun a une idée différente ici de l'équilibre, mais il est très difficile d'arriver à la conclusion. Si l'on ne sait pas sans quoi ils bénéficient, alors comment va fonctionner la rémunération, comment seront-ils payés pour leurs efforts et leur temps? Oui, tout à fait. Mais le problème, c'est que... Alors, maintenant, nous concentrons trop sur les conséquences financières et que la première partie n'est pas clairement traitée. Il y aura toujours ce problème, a toujours existé. Et ça revient à la question de l'administration. Question de politique générale, bien le gouvernement canadien doit comprendre qu'il faut repenser, il faut que l'office de la protection soit repensé, voir un peu comment fonctionne son budget, son administration. Les décisions sont très souvent héroïques quant au travail que ça peut exiger pour arriver à décision. Et par conséquent, c'est comme ta question de la taxonomie, il faut vraiment réfléchir à l'administration de la protection une fois que la loi sera faite. Non, les choses ne seront pas terminées quand la loi sera adoptée. Ensuite, il faut passer à la phase suivante. C'est là qu'on peut commencer à traiter les questions telles que, par exemple, si on avait un rôle de traitement équitable bien défini. Et alors, il faudra comprendre l'association des bibliothèques et l'union des étudiants. Comment créer un régime qui va être adapté à leurs besoins? Oui. Alors, peut-être un peu des commentaires, des choses ici, qui va susciter des doutes, qui n'est pas très clair. Voilà. Alors, il y a l'ancienne loi qui était très bonne et ça durait très longtemps parce que, de manière générale, c'était neutre sur le plan technologique. Et à écouter ce qui s'est dit aujourd'hui, je me rends compte, voilà ce que j'entends ici de par mon travail et de par la Chambre du commerce, il est difficile c'est de réaliser des législations neutres sur le plan technologique lorsque chacun a une voix unique, une interprétation unique selon des traits. Alors, il faut commencer par les principes. Ensuite, il faudra écouter chaque voix, chaque avis et essayer d'arriver à un bon dosage entre les deux. Alors, on a beaucoup parlé ici de traitement équitable, d'accord, mais je peux vous dire... alors, c'est bien, ce traitement équitable, c'est très bien, mais alors, ici, la notion d'équité, ici, elle varie selon les personnes. Alors, j'entends constamment des clients qui me disent, oh, alors, écoute, voilà, c'est un, on me dit, c'est le fait de tout copier, voilà, c'est un usage tout à fait équitable. Bon, en fait, attention, position ici. Bien, certains qui estiment que ce n'est pas le cas du tout. Alors, je n'avais pas votre position qu'il faudra véritablement le trancher. Mais ce que j'aimerais voir ici, quel que soit le texte ici qu'on va choisir, il faut faire attention ici, que les principes soient neutres sur le plan technologique et puis ensuite s'aventurer dans les différents secteurs industriels pour voir ici comment ce dosage va être effectué. Alors la neutralité technologique, c'est un sujet mentionné hier. Alors, les participants s'y intéressaient. Elle était fondée sur l'idée que, suivant, c'est que si on essaye tout ce qui est faussé sur l'interprétation actuelle de la technologie, ce sera désuet en rien temps et ce sera tout à fait caduque. Et autre chose qu'il faut mentionner, c'est diminuer la crédibilité de la loi. Sur une courte période de temps, elle devient désuète. Ce sera ignoré par le public, alors qu'il y a d'autres parties de la loi qui restent toujours valables. On dit les mêmes choses. Il n'y a rien de statique maintenant. On essaye d'introduire une loi qui soit équitable, adapté aux besoins actuels, alors que la discussion, le débat n'est pas terminé. Pour autant que je sache, ça, on n'est qu'au début, finalement, à 50%, à mi-parcours. C'est le défi qui est présenté quand on essayait de faire une loi. Le défi était accentué par le fait qu'à l'époque, on ne peut copier une chose ici que de façon limitée. Alors, simplement, vous le faisiez avec une feuille de papier. Vous ne pouvez pas, par exemple, copier un album, des disques. Et maintenant, avec la numérisation, vous pouvez tout modifier, tout changer avec les moyens technologiques. Alors, qu'est-ce qui est adéquat, qu'est-ce qui ne l'est pas? Alors, j'ai parlé ici de la notion de perception. Alors, comment est-ce qu'on peut faciliter la lecture ici d'un livre par un aveugle en utilisant la technologie perceptuelle? Alors, vous savez, l'échelle est plus vaste. Alors, j'ai dit la même chose lorsque ces questions ont été soulevées. Et je suis certain ici que Homer avait les mêmes difficultés avec son travail qui doit être copié. On parle d'Homer. Je ne crois pas. Oui, il n'a rien écrit. C'est son problème. Oui, c'est une histoire orale. Et voilà. La nature humaine étant ce qu'elle est, voilà, c'est un problème naturel. Vous avez tout à fait raison. C'est vrai que la technologie est tellement vaste et très diversifiée maintenant que tout se peut se faire instantanément. Alors, c'est difficile de prévoir l'avenir. Ici, je vois. Alors, dans les années 20, par exemple, on avait évité la diffusion de la musique à la radio à l'époque parce que cela nuisait à la vente de papier musique. C'était promu par la radio, l'activité musicale, c'était promu par la radio. Mais c'est difficile d'avoir une vision qu'on ne sait pas ici comment évoluer les technologies à l'avenir. Mais l'intérêt humain veut ceci, c'est que c'est la chose immuable. Je me souviens d'avoir lu un article dans les années 20, ou dans les 30, les représentants d'édition musicale et d'enregistrement musical qui allaient voir ce qui se passait, ou ce qu'il y avait comme chansons populaires aux États-Unis et ailleurs ici. Et alors, on faisait beaucoup de recherches pour essayer de les récolter. Et puis ensuite, ces chansons ont été choisies pour devenir la chanson, si on veut, amirale pour une compagnie. On ne peut pas détruire l'autre point de vue. Les lois de la protection ont des avantages. Je ne crois pas que ce soit une bonne chose que d'exister dans ce monde où il n'y a que des biens de contrefaçon, qu'il n'y a pas de certitude, de rémunération pour la créativité, pour les inventions, etc. Non, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien non plus pour le consommateur. Alors, ce qu'il faut, il faut des règles adéquates pour bien rémunérer les gens de façon que le public sache comment se comporter. Le problème lié à l'économie numérique, c'est très difficile de savoir quoi faire pour le dire simplement. Ouais, voilà, on est tous en but de la même chose. Et vous ajoutez quelque chose. J'aimerais tout simplement dire que je suis très impressionné par la Cour suprême pour ce qui est d'ici facteur. Je crois ici que ce qui était ou ce qui n'était pas bien traité avant 2004, ça a été compliqué. C'était beaucoup plus compliqué que maintenant. Et maintenant, on est une situation plus facile. La Cour suprême a fait un excellent travail ici en contactant ces ici facteurs. Je crois que alors ce sera plus facile à utiliser, à les codifier, que d'essayer que de commencer à partir de zéro. Voilà. Voilà, un dernier mot, Catherine. Alors, si vous permettez. Et maintenant, un petit rappel, c'est que la loi sur la protection des droits d'auteur vise à fournir un ensemble de droits. Mais ces droits ne doivent pas nécessairement être assorti ici de règles particulières. Par exemple, si quelqu'un veut donner sa musique gratuitement, bon, il peut le faire. Alors, je pense qu'il ne faut pas imposer des règles générales. Ne soyons pas toujours très généreux dans la loi, simplement en raison de la partie libérale de l'intérêt. Il n'est pas oublié ici que le contenu est très diversifié. Il y a des données scientifiques, il y a des causes en tribunal, il y a des collections. Alors parfois on parle ici d'articles de journaux. Non, tout ne s'arrête pas présent au disque, au CD ou à d'autres formes de transmission numérique. Merci. Je le rappelle alors, mesdames et messieurs. Alors je crois qu'on a respecté l'heure impartie. Merci beaucoup. Je souhaite que quelqu'un. Alors si seulement on avait trouvé une salle avec des fenêtres. Merci. À nos hôtes. Ça a été très généreux de nous accueillir ici. Merci d'avoir participé à ce débat. Cela sera affiché, je pense. Et quoi qu'il en soit, hier, nous avions eu plusieurs dizaines de personnes ici qui l'ont suivi sur Twitter. Je ne sais pas si quels seront les résultats aujourd'hui. J'espère que vous avez passé l'audition. Alors, je vous exhorte à suivre le débat à mesure ici qu'il évolue dans différentes villes. Et maintenant, nous vous souhaitons d'ores et déjà de recevoir vos mémoires. Merci.